Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 11. Et nous allons considérer les derniers versets de ce chapitre, les versets 33 à 36. Cette doxologie, Paul arrive à la fin de cette section qui a commencé au chapitre 9. Et dans ces dernières semaines, ces derniers mois, devrais-je dire, Paul nous a conduit à travers les mystères des desseins souverains de Dieu, à être émerveillé devant la grandeur de Dieu dans ses desseins. Et maintenant, il explose dans cette doxologie, cette louange. Et nous lisons donc à partir du verset 33, et voici la parole de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et jusque-là, la parole de Dieu. C'est donc la fin de ce chapitre 11, la fin de cette section donc, qui couvrait les chapitres 9, 10 et 11. Et on a sans doute ici les paroles les plus extraordinaires dans le Nouveau Testament. À la fin de l'évangile de Matthieu, on a les paroles les plus profondes dans le Nouveau Testament où le nom de Dieu est prononcé pour la première fois de manière correcte. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ici, on arrive au sommet de l'argumentation de l'apôtre Paul. Et quand on regarde en arrière, quand on voit le chemin qu'on a fait pour arriver ici, on voit qu'il y a différents sommets qu'on a gravis tout au long de notre étude depuis le début de cette lettre. Par exemple, un premier sommet au chapitre 1, la déclaration versets 16 et 17, que Paul n'a pas honte de l'Évangile, que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec. On a la déclaration au chapitre 3, versets 21 à 24. En dépit de notre péché, Dieu, dans sa miséricorde, a pourvu un moyen de salut. Au chapitre 5, ce moyen de salut est si merveilleux que non seulement nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, chapitre 5, verset 2, mais nous nous glorifions en Dieu lui-même, chapitre 5, verset 11. Au chapitre 8, un autre sommet, versets 38 et 39, on découvre que Paul est excité, on pourrait presque dire euphorique. Il a gravi sommet après sommet et il lance ce défi à l'univers entier en posant toutes ces questions. Qui peut détruire les desseins de Dieu? Et la réponse, c'est personne. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Paul est encore monté plus haut. Et on l'a vu dans ces chapitres 9, 10 et 11, et c'est des chapitres où la plupart d'entre nous, on a besoin d'oxygène parce que le sommet est trop haut. Et il nous a amené jusqu'au verset 32 où Paul résume comment Dieu agit avec les juifs et les non-juifs durant l'histoire et même encore aujourd'hui. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est comme si Paul entourait de ses bras la déclaration qu'il a faite au chapitre 1, versets 16 et 17. L'évangile est pour les juifs et les non-juifs. Et il dit aussi au verset 32, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est aussi un écho à ce qu'il a dit au chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa miséricorde infinie, Dieu a renfermer tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde aux Juifs et aux non-Juifs de la même manière. Et maintenant que Paul est arrivé à ce sommet, il regarde en arrière, ou peut-être, plutôt devrais-je dire, il regarde en bas, il regarde vers le bas. Et il voit le chemin qui a été parcouru, le chemin de l'Évangile et de comment tout cela l'a amené jusqu'ici. Et Paul est lui-même, si on peut dire, se sent peut-être un peu grisé par l'altitude. Et il dit, c'est quelque chose d'inhabituel pour lui. Il commence, oh, c'est le mot qui exprime, en fait, qu'il a pas de mots, il est sans voix. Il est émerveillé. Si on voudrait une version moderne, on dirait, waouh, tout ceci est extraordinaire. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait dans l'histoire, est tout simplement extraordinaire. Et Paul commence à parler, à sentir la pression de tout ce dont il a parlé. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prêcher, Paul nous donne un aperçu de ce que c'est que prêcher. Quand on prêche, on est assis sous sa propre prédication, sous la prédication de la parole. On entend sa propre prédication de la parole. Et même si ça peut ne pas avoir une grande importance pour l'auditoire, le prédicateur peut entendre son message et parfois peut se dire intérieurement, waouh, Dieu peut-il être autant plein de grâce que cela? Et on sait à la fin de cette lettre que Paul a dicté cette lettre à son secrétaire Tertius, chapitre 16, verset 22. Et donc Paul a écouté ce qu'il disait à Tertius. Il a entendu sa propre prédication. Et quand en entendant cela, il a dit, mais ceci est extraordinaire. C'est merveilleux. Et il essaie d'expliquer en choisissant ces mots. Il essaie d'expliquer l'inexplicable, de décrire l'indescriptible avec des mots qui explosent dans son cœur devant la merveille de l'œuvre de Dieu et de son salut en Jésus-Christ. Et ces mots sont une indication de la profondeur à laquelle le salut a touché le cœur de l'apôtre Paul. On a des indications au sujet de ce que Paul dit de sa vie avant de devenir chrétien, que sa vie émotionnelle était limitée, elle était restreinte, il avait un esprit amer, orgueilleux, avant d'être amené à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'on voit ressortir maintenant, c'est que Dieu est en train de l'étirer, pas seulement intellectuellement et mentalement pour comprendre l'Évangile, mais Dieu l'étire aussi émotionnellement, pour que ses émotions, ses affections soient suffisamment grandes pour répondre à la gloire et à la perfection de l'Évangile. Et c'est ce que l'Évangile devrait faire, et fait en chaque cœur du croyant. Je sais que l'Évangile devrait nous pousser à nous exclamer comme Paul, « Waouh !» L'Évangile devrait toucher nos affections, devrait exciter nos affections, devrait normaliser nos affections pour que nous répondions à la gloire de l'Évangile avec un sentiment d'émerveillement, d'étonnement, que Dieu soit autant rempli de miséricorde envers nous et que Dieu nous ait fait grâce en Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que Paul fait dans ces quatre versets qui viennent conclure cette section. Il y a trois points dans le message. Le premier point, c'est, je vais dire, peut-être 90% du message. Les deux autres points sont des petits points. Le premier point, c'est l'exultation de Paul dans la sagesse de Dieu. L'exultation de Paul. Paul exulte. Il est, pour ainsi dire, sur la pointe des pieds, devant la sagesse, devant la science de Dieu. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. En fait, on pourrait même enlever la virgule, la première virgule après richesse, et lire ô profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu. La richesse de la sagesse et la richesse de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ô profondeur. C'est sûr qu'avec l'image qu'on a utilisée des sommets qu'on a gravis, on aurait aimé que Paul parle aux hauteurs. Mais Paul est sur le sommet. Il regarde vers le bas, ô profondeur. Et ce qu'il voit est extraordinaire. Et on sent maintenant qu'il est arrivé à un autre endroit que là où il était au début du chapitre 9 et au début du chapitre 10. Quand son cœur était tellement focalisé sur les besoins de ses compatriotes que la seule chose qu'il pouvait ressentir était un cœur brisé, un fardeau pour les siens. Et un fardeau, un cœur brisé, fait partie des affections du vrai croyant. Mais ce n'est pas la seule affection, ce n'est pas la seule émotion. Voilà cet homme, l'apôtre Paul, dont le cœur était brisé pour les siens, dont le cœur saignait pour ses compatriotes. Voilà maintenant qu'il trouve une stabilité dans sa compréhension, même limitée, des desseins de Dieu dans l'histoire concernant son peuple. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous, juifs et non-juifs. Et Paul ne peut s'exclamer. C'est Augustin qui dit à ce sujet, il dit « Je vois les profondeurs, mais je ne peux pas atteindre le fond. » Je vois les profondeurs, mais je ne peux pas atteindre le fond. Et c'est cela quand on considère les voies de Dieu. On vient à le connaître, on vient à le comprendre dans un certain sens. Et on sait, on admet que notre compréhension est véritable, elle est vraie, mais elle est limitée. C'est la compréhension d'une créature qui est basée sur ce que Dieu a révélé de lui-même. Quand nous disons à Dieu, Père céleste, je te connais par ton Fils, par ton Saint-Esprit, nous disons en même temps, ô profondeur, je n'atteindrai jamais le fond. Je ne pourrai jamais mettre mes bras autour de cette réalité. Mon esprit de créature ne pourra jamais comprendre toutes les merveilles de cette réalité, parce que lorsque je regarde tout ce que Dieu a fait dans l'histoire, je ne peux que parler de la richesse de sa sagesse et de sa science. Quelque chose qui me dépasse, qui m'est bien plus grand. Et quand Paul parle de sagesse et de science, en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Dans la Bible, il y a une différence entre sagesse et science. La science parle de compréhension. On comprend et Dieu comprend tout. La science, c'est l'acquisition d'informations. Et Dieu sait tout, il connaît tout. La sagesse, c'est la science mise en pratique. Il y a beaucoup de personnes qui ont la science, qui connaissent des choses, mais qui ne savent pas quoi en faire. Et ces personnes n'ont pas de sagesse. Il y a des personnes qui passent les examens avec les meilleures notes, mais ils sont catastrophiques quand il est question de la pratique sur le lieu du travail. Ils ont la science, mais ils n'ont pas la sagesse. Pas pour Dieu. Il connaît tout. Rien n'est caché devant lui. Et il sait ce qu'il fait avec cette science. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses à mon sujet. Il connaît même des choses à mon sujet que moi je ne connais pas encore. Il me connaît parfaitement. Il me connaît depuis le ventre de ma mère, comme on l'a lu dans le psaume 139. Il n'y a aucun détail de ma vie, aucune particularité de ma personne que Dieu ne connaisse pas. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est irritant pour nous, jusqu'au jour où nous venons à nous soumettre à lui. Et Paul a développé cette idée de la sagesse étonnante de Dieu dans ces derniers chapitres que nous avons considérés. Dieu a éclairé Paul dans sa réflexion alors qu'il cherchait à comprendre à partir des Écritures les desseins souverains de Dieu. Il a vu comment le Messie est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Comment était-ce possible? Comment Dieu ne pouvait-il pas savoir mieux que cela pour ne pas permettre à ces choses d'arriver? Paul a commencé à le voir dans son ministère, dans sa propre vie. Il a commencé à le voir dans l'Ancien Testament. C'est par leur rejet du Seigneur Jésus-Christ que l'Évangile est sorti de l'enclave d'Israël pour se répandre dans le monde et atteindre ce monde païen. Et les païens sont venus à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul voit encore plus clair. Dieu a fait cela pour provoquer à la jalousie les compatriotes de Paul. Pour que ses compatriotes se disent, mais ces personnes, ces païens, ont hérité des promesses qui nous avaient été données. Ils jouissent des bénédictions qui nous avaient été promises, que nous n'avons jamais goûtées. Et dans un sens, les païens étaient comme le jeune fils prodigue dont on a lu la parabole en Luc chapitre 15. Ils sont revenus. Le père les a tués le veau gras. Il a organisé une fête. Les païens ont découvert l'évangile. C'est la fête. Ils ont découvert que la vie chrétienne, que suivre Christ, c'est la joie, c'est la paix. Même au milieu des difficultés, même au milieu des luttes, des persécutions, il y a la célébration parce que nous sommes revenus auprès du Père Céleste. Mais le fils aîné est jaloux parce qu'il n'a jamais goûté aux choses qui faisaient pourtant partie de son héritage. Et maintenant, il refuse d'entrer. C'est intéressant que le Seigneur Jésus-Christ dise cela à son peuple juif, selon sa nature humaine. Il a raconté cette parabole du fils prodigue parce que dans l'assistance, il y avait des personnes qui disaient « Mais voilà, ces personnes qui ne sont pas juives ne devraient pas hériter nos promesses. Ces promesses sont pour nous. » Et Paul, comme on l'a vu, a commencé à comprendre l'enseignement de l'Ancien Testament et il y a quelque chose qui le saisit. Le peuple de l'Ancienne Alliance ne va pas empêcher Dieu de toucher ceux qu'il a choisis, qu'ils soient païens ou qu'ils soient juifs. Personne ne pourra l'empêcher d'accomplir son dessein et de sauver ceux qu'il a choisis. Dieu a renfermé, il le dit au verset 32, tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. La science et la sagesse de Dieu sont au-delà de notre portée. Paul continue que ses jugements sont insondables. Qui aurait pu imaginer tout ce que Paul vient d'expliquer dans ces derniers chapitres? Qui aurait pris un tel risque apparent? Qui aurait établi un plan aussi surprenant? Personne! Les jugements de Dieu sont insondables. Il rajoute, ses voies sont incompréhensibles. Et le langage de Paul est en fait très imagé. Et les mots, en fait, l'idée derrière ces mots, c'est qu'on ne peut pas suivre les traces. On ne peut pas suivre les traces. Et on a une image dans le psaume 77, par exemple, au verset 20. Le psalmiste dit ceci, « Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. » Tes traces ne furent plus reconnues. Il est impossible de savoir où Dieu va. Dieu est souverain, dit Paul. Dieu, il est libre. Personne n'a pu deviner. Parce que personne, nous n'aurions pas vu les traces de Dieu si Dieu ne nous avait pas révélé le mystère dont parle Paul ici dans ce passage. Nous n'aurions pas pu suivre ces traces. C'est pour ça que c'est un privilège d'avoir la parole de Dieu, d'avoir la Bible, d'avoir l'Ancien Testament. Parce que Dieu nous dit dans la vie de son peuple, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, regardez comment j'ai imprimé mes traces sur la vie de ces personnes. Même si la personne elle-même n'a jamais vu une seule de ces traces. Mais regardez comment j'ai imprimé mes traces dans ces vies. On peut penser à plusieurs exemples. Je citerai l'exemple de Ruth, par exemple. Est-ce que Naomi, quand elle a perdu son mari, que ses deux fils ont épousé des femmes païennes, puis les deux fils sont morts, est-ce que Naomi a pu imaginer que Dieu imprimait ses traces dans sa vie, que son dessein était de l'amener d'abord dans l'arbre généalogique du roi David et ensuite dans l'arbre généalogique du Seigneur Jésus-Christ? Naomi, la belle-mère de Ruth, n'aurait jamais pu imaginer cela. Et de même pour nous. Quand on avance dans la vie chrétienne, on regarde en arrière et on se dit « Mais comment est-ce que je suis arrivé ici ? Comment est-ce que les traces de Dieu dans ma vie, dans ma jeunesse, ont-elles conduit jusqu'à ce stade ?» Dans notre vie, on ne savait pas que certains choix nous conduiraient ici. Les voies de Dieu sont au-delà de notre capacité à comprendre. Et cela fait partie à la fois du défi de la vie chrétienne et de l'excitation de la vie chrétienne. Parce qu'on peut lui faire entièrement confiance, même si on ne peut pas voir de façon claire. On peut lui faire entièrement confiance. Et Paul peut exulter dans les desseins de Dieu. Et il continue, verset 34, en disant que Dieu n'a pas besoin de conseiller. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Personne. Pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas besoin de conseiller ? Parce que ses voies sont parfaites. Il n'a pas besoin de conseiller, parce que ses voies sont absolument parfaites. Et Dieu a une confiance absolue dans ses voies. Nous n'avons pas toujours confiance dans les voies de Dieu. Et c'est pour ça que nous murmurons. C'est pour ça que nous nous plaignons. Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Sors-moi de là. Je n'aime pas cette pagaille. Je n'aime pas cette difficulté. Mais Dieu a une confiance parfaite dans ses voies. Il sait exactement ce qu'il fait dans le monde et ce qu'il fait dans nos vies. Et Paul rajoute au verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Qu'est-ce que Paul veut dire ? Il veut dire qu'avec Dieu, c'est toujours donné. Dieu donne à ses créatures. Dieu donne. Dieu n'est jamais endetté envers nous. Il ne nous doit jamais rien. Et il donne. Et vous remarquez que, comme Paul l'a déjà fait, il retourne à l'Ancien Testament pour prouver le point qu'il est en train de faire. Il cite ici Ésaïe 40, verset 13, le passage où Ésaïe regarde vers l'avenir lorsque le peuple sera à Babylone, qu'il sera délivré de ce terrible exil. Ce peuple est pauvre, faible. Ce peuple n'a pas de force pour se délivrer lui-même de son exil. Comment est-ce que la libération sera possible ? Cela se fera parce que Dieu a une confiance absolue dans ses voies, dans sa planification parfaite et dans sa grâce pour le salut de son peuple. Et il cite Job. Job lutte avec les desseins de Dieu. Au milieu de ses luttes, Job dit à Dieu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont Dieu traite Job. Mais à la fin, Job est amené à s'humilier devant Dieu, à reconnaître que les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Et c'est un merveilleux endroit où il fait bon d'être quand tout va bien, mais aussi vital d'être à cet endroit quand les choses ont l'air d'aller mal, d'être dans ce lieu où on apprend à exulter dans la profondeur de la science de Dieu. On vient reconnaître que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55, verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix ne sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Qui d'entre nous a planifié sa vie comme elle s'est déroulée jusqu'à maintenant? Personne. Et le grand privilège d'être chrétien, c'est de pouvoir regarder en arrière, de voir la pagaille, le désordre, les faux pas, les décisions que l'on a prises pour des mauvaises raisons, et de reconnaître en tout cela la capacité de Dieu à accomplir ses desseins. Parfois avec notre soumission à lui, et parfois sans nous. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son dessein. Et c'est un privilège pour le jeune homme, la jeune femme qui comprend cela, qui croit cela, qui sait qu'il ne sera jamais ballotté par les vents dans ce monde. On voit toutes sortes de pressions qui sont dans le monde, notamment la pression sociale de faire comme les autres. Mais cette pression aura très peu d'effet sur le jeune homme ou la jeune femme qui croit en Dieu, qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est stabilisé par cette vérité. En ce qui concerne mon Dieu, ses voies sont parfaites. Je n'ai pas besoin d'autres conseillers. Je n'ai pas besoin d'une autre sagesse que la sagesse de Dieu, que cette sagesse qu'il me donne dans sa parole. Et pour le jeune et le moins jeune, les pressions du monde, dans un sens, deviennent comme l'eau sur le dos d'un canard. Parce que les personnes qui apportent ces pressions sur moi ne réalisent pas que je suis immensément riche dans la sagesse et le dessein de mon Père Céleste. Rien ne peut l'arrêter dans l'accomplissement de ses desseins dans ma vie. Ô profondeur, dit Paul, waouh ! Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Paul exulte. Deuxième point, Paul déclare la souveraineté de Dieu dans toutes ses voies. Début du verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui. Que sont toutes choses. Ça, c'est un verset qui est facile à apprendre. Pas besoin d'un diplôme d'ingénieur pour mémoriser ce verset. Toutes choses sont de lui. Savez-vous que le croyant le moins intelligent a une meilleure compréhension du cosmos que le scientifique le plus brillant qui est incroyant? Le croyant le moins intelligent a une meilleure compréhension du cosmos que le scientifique le plus brillant, mais qui est incroyant. La question la plus fondamentale qui irrite les scientifiques incroyants et les philosophes est celle-ci. Comment puis-je trouver un point d'unité dans une situation remplie de diversité? Les plus grands scientifiques, les plus grands philosophes, on cherchait à trouver ce point d'unité. Et on le voit par exemple dans l'œuvre de Stephen Hawking, par exemple. Il était animé par cette passion de trouver un principe, de trouver quelque chose qui tiendrait ensemble la diversité des choses, pour qu'on puisse parler d'un cosmos, pour prouver qu'on n'était pas perdu dans un chaos au caractère aléatoire. Mais le croyant le moins intelligent est capable de dire « toutes choses sont de lui ». Et même si je ne sais pas tout au sujet de tout, même si je ne sais rien au sujet de tout, je sais quelque chose au sujet de tout. Tout vient de lui. Je sais d'où ça vient. Toutes choses viennent de Dieu. Non seulement dans la création, mais aussi dans mon salut. Tout vient de Dieu. Et Paul continue, il passe de la souveraineté de Dieu dans le don à la souveraineté de Dieu dans la supervision. C'est de lui et par lui que sont toutes choses. Dieu n'a pas perdu le contrôle sur l'univers. Il supervise tout dans l'univers. Comment est-ce que je peux comprendre cela? Comment est-ce que je peux être sûr de cela quand tout semble aller mal dans nos vies? On regarde à la croix. On regarde à la croix. Et là, on voit que tout ce qui semblait aller mal dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, on comprend que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, que ce n'est pas un accident, mais que c'était selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, comme Pierre le dit en Actes 2, verset 23. Que la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ faisait partie du plan de Dieu. Et que donc ce n'est pas un accident. Et donc nous pouvons nous reposer en Dieu, sachant qu'il contrôle absolument toutes choses. Et Paul rajoute, toutes choses sont pour lui. Tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout ce qui m'arrive, tout est pour lui. Finalement, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Et Paul glisse, il enchaîne facilement vers le troisième point. Le troisième point, Paul ne peut s'empêcher d'exalter le nom glorieux de Dieu. Verset 36, la deuxième partie. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est le but du Père. C'est le but du Fils. C'est aussi le but du Saint-Esprit. Et chose étonnante, c'est aussi notre but en tant que chrétien. La gloire de Dieu. Les catéchismes de Westminster, petits et grands, commencent avec cette question. Quel est le but principal et le plus élevé de l'homme? Et la réponse, le but principal et le plus élevé de l'homme est de glorifier Dieu et d'en jouir éternellement. Le but principal de Dieu est de glorifier Dieu et d'en jouir éternellement. Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu. Et en le glorifiant, d'en jouir éternellement. Et c'est ce que Paul nous a enseigné en Romains. Rappelez-vous, au chapitre 1, versets 21 à 23, Paul nous a dit que notre problème est que nous avions échangé la gloire de Dieu pour les idoles dans nos vies. Au chapitre 3, verset 23, il dit que nous avons péché, que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous étions créés pour la gloire de Dieu, pour donner gloire à Dieu, pour goûter la gloire de Dieu, pour aimer la gloire de Dieu, pour refléter, pour partager la gloire de Dieu. Et maintenant que le Fils est venu, que le Seigneur de gloire est entré dans le monde, qu'il a pris notre culpabilité, notre déshonneur, par la foi en Jésus-Christ, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et en Romains 8, Paul dit que nous commençons à comprendre que même le but de nos souffrances, c'est de souffrir avec Christ afin d'être glorifié avec Christ. Le but ultime de Dieu est de glorifier Dieu. Le but ultime de Dieu dans notre salut, c'est que nous glorifions Dieu. Comme si l'apôtre Paul disait que Dieu faisait tout ceci afin de nous lancer, de nous donner cette invitation. Maintenant, mon enfant, viens, viens goûter la gloire. Viens goûter la gloire. La question, c'est est-ce que nous avons goûté cette gloire? Est-ce que nous sommes repartis, par exemple, un dimanche matin, en pensant, voilà, ça c'était glorieux. Ça c'était quelque chose de très goûteux. Quelque chose que je n'avais jamais goûté auparavant. Quelque chose de bien meilleur que ce que le monde peut m'offrir. Quand on devient chrétien, on goûte à la merveille de l'Évangile. On découvre ce pourquoi on a été créé. Avant, on a combattu l'Évangile pendant des années. On pensait que glorifier Dieu allait détruire notre joie, notre bonheur, notre paix, notre accomplissement. Mais maintenant que nous goûtons cette gloire, nous sommes devenus des accros de la gloire. Nous voulons toujours plus, goûter davantage de la gloire de Dieu. Et nous voulons dire en toute chose, à Dieu seul soit la gloire, soli Deo Gloria. Si vous avez étudié la musique, même si vous ne savez pas, mais si vous ne l'avez pas fait, mais vous savez peut-être que Jean-Sébastien Bach écrivait trois lettres à la fin de ses compositions. Les lettres S, D, G. Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Et c'est ce que nous devrions faire aussi dans nos vies. Qu'est-ce que nous allons faire demain? École, travail, repos. Quoi que nous fassions, nous devrions écrire ces trois lettres, S, D, G, dans nos vies, et vivre selon ces trois lettres, pour la gloire de Dieu, pour la seule gloire de Dieu, parce qu'on a découvert que c'est pour cela que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour sa gloire. Et c'est ce que l'Évangile produit dans nos vies, une vie vécue pour la gloire de Dieu. Waouh, dit l'apôtre Paul, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs.